Déstressez-vous en écoutant votre émission avec la gamme Déstress du laboratoire Synergia, expert du stress et de ses conséquences. Déstress ? Déstress.
Nutri-Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Fabrice, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices.
Vous êtes zen. Oh là, je sens que vous êtes particulièrement zen. Vous avez bu du thé, vous êtes bien, bien installé.
Voilà.
Chaque lundi, c'est le docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio. Et vous le savez, maintenant, c'est du haut niveau. Et c'est ça, c'est la promesse aussi Nutri Radio. On est très, très fiers que vous soyez avec nous. On remercie évidemment notre partenaire sur ces émissions, le laboratoire Synergia, spécialiste en micronutrition. Si vous nous écoutez en podcast via, par exemple, la plateforme Spotify, vous êtes nombreux à le faire, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça nous aide pour le référencement, ça nous aide. Moi, je ne comprends pas forcément grand-chose, mais on a dit qu'il fallait que je dise ça, voilà. Donc, je précise de vous abonner, s'il vous plaît, ce sera votre contribution. La semaine dernière, l'émission est disponible en podcast, mais restez avec nous, vous allez pouvoir la réécouter peut-être à l'issue de celle-ci. La semaine dernière, on a parlé de l'auto-immunité, et puis on a terminé en évoquant l'intolérance, la tolérance et l'intolérance. Je pense que c'est important de revenir sur ces mécanismes essentiels, notamment déjà de la tolérance, Jean-Paul.
Oui, alors...
Parlez bien dans le micro, Jean-Paul.
On va déjà continuer, sur l'explication. On avait commencé à expliquer l'auto-immunité. Comment est-ce que c'est possible que notre système de globules blancs, d'anticorps, de défense contre les virus et les bactéries, tout ce qui est alien, se dérègle et nous attaque nous-mêmes? D'accord. Et donc on avait commencé, si vous vous en souvenez, à parler du fait que nos gènes subissent des lésions qui peuvent les modifier et ça va donner des protéines différentes qui ont une forme spatiale non détectée dans le catalogue du soi qui est fait dans le ventre de sa mère, vous rappelez. Et par ailleurs, donc, qu'est-ce qui endommage les gènes? Toute agression, le tabac, la pollution, justement l'inflammation... Les infections, donc, puisqu'elles sont inflammatoires, peuvent avoir ce double effet. D'un côté, endommager les gènes qui se mettent à engendrer des protéines modifiées, donc des auto-antigènes, et de l'autre côté, rendre intolérants des globules blancs. Une dysbiose intestinale, par exemple, tout le monde est au courant aussi que la flore est souvent impliquée dans beaucoup de pathologies, est aussi une source d'inflammation, de passage de molécules indésirables. On a, par exemple, une des pires, c'est les endotoxines, c'est des morceaux de bactéries tuées ou lipopolysaccharides, ou LPS, qui passent dans le sang et ça crée un pic d'inflammation très violent. Une des raisons pour laquelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, bien sûr, c'est en pratique, une des leçons à tirer de tout ça, c'est qu'il faut éviter de manger des protéines animales au dîner, parce qu'elles sont très infectées par des bactéries, et même cuites et donc tuées, ça va favoriser des pics d'inflammation majeurs qui vont, contrecarrer toutes les bonnes choses qu'on doit faire la nuit, c'est-à-dire se réparer justement de toutes les corrosions qu'on a subies pendant la journée.
Très bien, vous venez de changer mon menu du soir. J'avais prévu une entrecôte. Ça vient de changer. On est passé au brocoli.
Il faut passer...
Ah merci, non mais c'est vrai. On fait plein d'efforts parfois et les détails, le diable se cache dans les détails, en l'occurrence ça c'en est pas un du tout. Et je vous interromps très vite, comme ça on marque une pause et on se retrouve dans un instant, Jean-Paul.
Depuis plus de 20 ans, le laboratoire Synergia, pionnier en compléments nutritionnels, développe son expertise scientifique pour votre santé. Avec l'appui de médecins, nous créons des produits basés sur la synergie de micronutriments par une action optimale. Reconnus par les professionnels de santé, nous sommes les experts du bien-être et numéro 1 sur le marché des compléments du stress avec la gamme Destress. Choisissez Synergia avec Destress pour un quotidien plus sain et équilibré. Nutri-Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Pas de viande pour le dîner quand même, mesdames, messieurs, on l'écoute, on le sait.
Si on mange la viande, il vaut mieux la manger à midi, ça c'est clair.
Voilà, voire le matin même.
Pas cramé. Alors bon, le matin c'est plus...
c'est plus compliqué, c'est plus, la petite entrecôte du matin.
Dans notre culture, mais les Scandinaves, ils mangent par exemple des produits de la mer, des roll mops le matin, ou des macros, ça les gêne pas. Mais bon, c'est culturel.
Donc on parle de, on parle aujourd'hui dans cette logique de l'auto-immunité. On va continuer évidemment sur la tolérance-intolérance. Là, vous avez rappelé, et c'est important de l'avoir fait un petit peu toutes les raisons, hein, parce que les maladies auto-immunes, on le voit, sont multifactorielles. Et donc c'était un petit conseil que vous nous disiez que la nuit, voilà, il fallait qu'on se concentre non pas pour digérer ces viandes porteuses de bactéries. Est-ce qu'on peut revenir sur ces mécanismes essentiels de la tolérance, Jean-Paul ? Je suis bien le conducteur.
Alors, on n'est pas encore dans la tolérance. On est toujours dans l'auto-immunité.
Ah, ben oui, c'est vrai.
C'est encore autre chose. C'est encore autre chose.
Tout à fait. Non, je brûle les étapes, pardonnez-moi, je brûle d'impatience.
Brûler les étapes. Donc, les gènes ne peuvent pas être modifiés. Mais les modifications interviennent aussi au niveau des protéines elles-mêmes. Donc, on peut soit muter ces gènes, ce qui va donner des protéines différentes, mais les protéines peuvent être elles-mêmes directement modifiées, donc spatialement, par des opérations anormales. Par exemple, on a décrit des ajouts de résidus phosphates ou phosphorylés, citrullinés, un acide aminé qui est souvent justement détecté dans la polyarthrite rhumatoïde, déglycosylés, et tout ça, ça en fait aussi des auto-antigènes. Toute inflammation, donc même provenant d'un simple déséquilibre de la flore digestive, par ailleurs effectivement documentée par de nombreuses études. Bon, l'anomalie la plus fréquente, c'est d'abord une pauvreté, un manque de biodiversité dans notre flore. Bon, du fait, c'est souvent du fait qu'on mange pas ce qu'il faut. La pollution joue un rôle dessus. Les antibiotiques, bien sûr, vont détruire la flore. C'est pour ça qu'on conseille de prendre des probiotiques après des antibiotiques, donc tout ça peut modifier les protéines. Et puis tout polluant peut altérer soit les gènes, soit les protéines directement, peut être directement un facteur de maladie auto-immune, comme on le voit dans pas mal d'études. Par exemple, une étude coréenne sur 53 ou presque 54 000 personnes, les chercheurs arrivent en 2019 à la conclusion que ceux qui sont le plus exposés à du cadmium, c'est un métal lourd qui est assez fréquent, dans le tabac il y en a beaucoup, dans les aliments, ont 19 fois plus de risques. C'est énorme, c'est 1900% de risque de développer une polyarthrite rhumatoïde que ceux qui sont le moins exposés. Mais étonnamment, la seule pollution aérienne apparaît comme un facteur de polyarthrite rhumatoïde. Ça, je dois dire que ça m'a beaucoup surpris. Des polluants inspirés passent dans le sang, transmettent l'inflammation au tissu interne, ce qui explique qu'ils sont aussi des facteurs de diabète, de maladies cardiovasculaires, neurodégénératives. Et comme le remarque Thomas Bourdrel du collectif Air Santé et Climat, les PM2,5 sont déjà un combat d'arrière-garde. Le vrai danger, ce sont les particules ultra fines, des nanoparticules de pollution qui jusqu'à présent ne sont même pas mesurées dans les analyseurs qui sont placés dans les villes. Alors malheureusement, c'est ces petites particules les plus toxiques, les plus nombreuses aussi. Elles sont inférieures à 0,1 micromètre, elles pénètrent dans le sang et peuvent atteindre le cerveau, traverser le placenta des femmes enceintes. Aujourd'hui, les particules issues du trafic sont à 90% des ultra-fines. Non, je répète, non pour le moment encore comptées dans les détecteurs actuels. Donc on est très loin du compte là, dans les statistiques et les infos. Bon. Donc les modèles diesel les plus récents émettent des milliards de particules ultra-fines au kilomètre, selon le professeur Gilles Dixot de la Fondation du Souffle, alors que les PM2,5 ne sont pas prises en compte déjà et que les PM0,1 ne sont pas mesurés actuellement dans l'air des villes. Des médicaments, donc comme les bêta-bloquants, peuvent rendre des protéines antigéniques et provoquer des maladies auto-immunes, comme c'est le cas pour l'une des plus graves d'entre elles, le lupus. Les bêta-bloquants, on verra en nutrithérapie qu'on en a des naturels. Hein. Par exemple, le magnésium a un effet bêta-bloquant. Évidemment, pas les effets négatifs, ces effets négatifs du médicament.
Donc ça veut dire que le magnésium, c'est bon contre l'hypertension, par exemple?
Absolument. Ça, c'est maintenant, c'est officiellement reconnu. C'est parce que ça relaxe les cellules musculaires lisses de la paroi. Il y a plusieurs mécanismes. Et puis, accessoirement, on le reverra, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est que le magnésium est indirectement anti-inflammatoire parce qu'il calme l'activité des globules blancs.
Très bien. Alors, moi, je n'en reviens pas non plus de ce que vous avez dit sur même si on le savait, hein, les métaux lourds, ça est présent dans le cadmium, oui. Avec 19 fois plus de risque de développer une polyarthrite rhumatoïde, pour ceux qui sont exposés au cadmium, en sachant qu'il y en a dans l'alimentation. Je regardais, il y en a dans les pommes de terre, les fruits de mer, on ne sait plus quoi manger en fait. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y en a partout de ces cadmium. Fruits de mer, on vous dit de manger des fruits de mer, des moules, des crevettes, les huîtres, les petits, il y en a dedans.
Alors, malheureusement, si vous voulez, les produits de la mer, bon, que la mer est devenue une sorte d'égout, on balance tout, il y a les pesticides, les engrais, les eaux insuffisamment traitées, plus donc les évaporations industrielles, le plastique, les perturbateurs endocriniens, bon. Donc c'est vrai que on a toujours pensé que les produits de la mer étaient plus sains que les viandes. Et en effet, il y a des études qui montrent ça. Le problème, c'est que la mer est devenue tellement polluée que maintenant, le rapport bénéfice-risque n'est pas bon. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine dans Le Monde, il y a un article qui est sorti sur le bio est-il vraiment bon pour la santé. Et là, on est super étonné que la différence incroyable qu'il y a entre les animaux et les humains qui consomment du bio ou pas du bio, on a des différences mais absolument considérables de santé, c'est époustouflant. Mais c'est la même chose. Et ils en viennent à la conclusion, par exemple dans une étude, que si les gens qui mangent 4 fruits et légumes frais par jour ont des avantages santé, c'est pas nouveau ça, hein. Mais s'ils sont pas bio, ils les ont pas du tout. Zéro. Il n'y a pas d'avantage santé. Oui, mais c'est la même chose avec les produits de la mer. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de mercure, d'arsenic, de plastique, de perturbateurs endocriniens, etc. D'arsenic, tout le monde sait que l'arsenic est toxique. Il y en a de plus en plus dans les produits de la mer. Donc, la moule qui filtre 300 litres d'eau par jour, vous imaginez bien que c'est bien qu'il y ait des moules pour filtrer l'eau, mais il vaut peut-être mieux pas manger trop de moules.
D'accord, bon, il faut prendre des précautions à tous les étages. On marque une pause, en sachant d'ailleurs que le cadmium, pareil, il y a dans les épinards, la laitue, le chou, bon bref, c'est désespérant. C'est désespérant, mais j'espère que vous avez de bonnes solutions à nous apporter, Jean-Paul. On ne va pas se quitter comme ça sur cette note-là. Et d'ailleurs, on va attaquer aussi dans la dernière partie de l'émission, j'imagine. Cette fois, je serai à l'heure. La tolérance et l'intolérance, on y est là, je peux l'annoncer après la pause.
Non, c'est...
Ce sera pour la saison prochaine.
Il y aura un titre, Tolérance, Intolérance, une émission spéciale.
Je le vois, mais comme...
Émission spéciale.
Émission spéciale, oui, d'accord.
Passion.
Émission spéciale. Patience.
Spéciale.
Et mère de vertu. On se retrouve juste après ceci.
Nutri-Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bon, on va quand même rassurer nos auditeurs. Tout n'est pas perdu.
Par exemple, le cadmium des végétaux est beaucoup moins bien absorbé que le cadmium des protéines animales. Mais bon, c'est un peu général. Si vous voulez, tout le monde, c'est un consensus mondial, recommande qu'il y ait beaucoup plus de végétaux dans l'assiette maintenant.
Alors,
il y a des tas de raisons, dont le fait que même les polluants, s'ils sont présents, ils sont moins agressifs.
Alors, on rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, et vous avez bien raison de nous rejoindre à tout moment, on parlait là, avant la pause, de cadmium, qui est un métal lourd, hein, potentiellement toxique, enfin potentiellement...
Pas potentiellement.
Voilà, toxique, mais j'essaie de me rassurer comme je peux. et qu'on va retrouver dans divers aliments, principalement à cause de la contamination des sols. Donc, vous voyez, il y en a partout un peu, pommes de terre, céréales et graines, légumes à feuilles et fruits de mer, voilà, le foie, les reins d'animaux, alors que on nous dit qu'il faut aussi en manger, bon bref. Et vous disiez que le cadmium qu'on va trouver dans les légumes, par exemple, ils sont moins assimilés par l'organisme, donc moins toxiques, c'est ça?
Fait. Oui, parce qu'il y a des fibres qui les bloquent, les polyphénols bloquent ces métaux lourds. Donc, si vous voulez, dans les végétaux, il y a beaucoup moins de risques que les polluants sont moins toxiques.
Bon, bah, c'est déjà ça, c'est toxique, mais moins toxique.
Oui. Voilà.
Ouais, là bon, où on nous en sommes.
Et en plus, si vous mangez bio, alors là, vos aliments sont nettement plus... positif pour votre santé.
Oui, et après vous allez me dire ça dépend du bio. Est-ce que c'est du bio, soi-disant le bio français c'est mieux? Moi je me méfie toujours de dire le bio français c'est le meilleur.
Le bio européen, on va dire, est plus exigeant que du bio qui vient de plus loin, où souvent les réglementations sont plus laxes.
Ouais, mais souvent, ça y est, il y a beaucoup de légumes et fruits espagnols qu'on va retrouver. On dit attention, c'est du bio espagnol, c'est pas la même chose. Enfin, moi j'entends ça de temps en temps et je me dis mais oui. C'est basé sur quoi?
Non, je pense que le bio espagnol est assez fiable, mais par contre, le non bio espagnol est moins bon que le non bio français, enfin, globalement. Oui. Pour résumer.
Alors, vous parlez également de ces bêta bloquants naturels, comme aussi le magnésium, hein, qui est votre dada. S'il y avait un ingrédient phare de Dr Jean-Paul Curté, c'est le magnésium. On en a parlé déjà dans une émission que vous allez pouvoir retrouver à l'issue de celle-ci, écouter en podcast. Elle est déjà disponible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait contre tout cela? De tout le monde est porteur de plus en plus d'anticorps.
Avec l'âge, on a subi des corrosions, donc notre ADN s'est modifié. Voilà, mais aussi on a tous des auto-anticorps qui augmentent. Bon, comme je l'ai dit, comme les artères s'épaississent ou les cartilages s'endommagent, mais toutes ces maladies sont multifactorielles et il faut des facteurs de risque pour déclencher une vraie maladie auto-immune. Et Fabrice, je vais vous faire plaisir, on va attaquer enfin ce thème de la tolérance et de l'intolérance.
Ah, mais on l'attaque quoi maintenant?
Bah, si vous voulez.
Ah bah oui, bah allons-y. Sinon, je pensais qu'on avait fait une émission spéciale, mais on continue la semaine prochaine. On va continuer là-dessus la semaine prochaine. On aborde ça maintenant, on met l'eau à la bouche.
Comme vous voulez, on peut l'aborder la semaine prochaine si vous pensez que...
Non, on va, voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on en parle maintenant, on démarre. De toute façon, il y a beaucoup de choses à dire.
On reprendra la fois prochaine.
Voilà, exactement. Donc on continue parce que c'est évidemment dans le prolongement de ce qu'on a dit, puisque nos globules blancs, ils doivent être éduqués.
Absolument. Ils doivent être éduqués, en particulier sous l'influence de ce fameux système HLA à tolérer nos propres protéines. Alors, il y a une glande qui est très développée chez l'enfant, qui s'appelle le thymus, qui est au niveau du cou, hein, qui est chargée de détruire des globules blancs, entre guillemets, délinquants, qui seraient intolérants à notre soi. Par ailleurs, quand nous subissons une infection, nos globules blancs sont mobilisés, ils partent à l'attaque par milliards, hein, sous l'effet de messages émis par les phagocytes. Il y a une invasion, il faut réagir. Quand l'alerte est passée, ils doivent se calmer et rentrer dans le rang. Alors, des globules blancs policiers sont chargés de ce travail. C'est les lymphocytes CD8, qu'on appelle suppresseurs. Hein, c'est les freinateurs, hein, par rapport aux attaquants. C'est les CD4, hein, qui, évidemment, vont prendre le message de l'antigène qui attaque pour mobiliser tout le système. Mais il y a donc des familles de globules blancs qui vont arrêter la guerre quand la guerre est finie. C'est indispensable, évidemment, au retour à une situation de paix et de tolérance non inflammatoire. Or, de nombreux facteurs, en particulier inflammatoires, justement, peuvent rendre délinquants les globules blancs en faisant circuler des fake news. Ça vous dit, il y a des parallèles sociaux. Des messages alarmistes corrompent des policiers qui ne jouent plus leur rôle. Par ailleurs, l'apprentissage de la tolérance passe par la fréquentation d'une multitude de microbes différents. Les enfants des fermes, exposés auprès des animaux à une variété de germes beaucoup plus grande que les petits urbains, s'avère relativement protégé contre les intolérances, qu'elles soient alimentaires, allergiques ou auto-immunes. J'en ai déjà parlé dans quelques émissions précédentes, mais je vous le rappelle à cette occasion. Vous avez encore, je pense, sur Arte, l'émission de Marie-Monique Robin, « Vive les microbes ». Vous verrez, elle est très bien faite et elle explique bien tout ça. C'est vraiment très convaincant. Globalement, le fait, si vous voulez, qu'il y ait plein de germes dans les fermes à cause des animaux, du fumier, etc., fait que les enfants, entraînent leur phénomène de tolérance, d'accord ? Tandis que le petit urbain qui vit dans un environnement beaucoup plus aseptisé, il n'a pas cette éducation de tolérance. L'obsession de l'hygiène, l'utilisation généralisée de désinfectants, des antibiotiques, qui sont nécessaires parfois, mais bon, un peu surutilisés, surutilisés surtout d'ailleurs chez les animaux. Voilà. Chez l'homme, on a fait des progrès pour mieux calibrer quand est-ce qu'on doit donner des antibiotiques ou pas. L'angine, elle est virale, c'est pas la peine. Si l'angine est bactérienne, on va donner des antibiotiques. Bon, on a fait des progrès. Hein. Les antibiotiques, c'est pas automatique, vous l'avez entendu. Bon. Comme le plastique, c'est pas fantastique, ça va ensemble.
Ah.
Mais, entraîne donc toutes ces interventions entraînent une augmentation des intolérances. Et vous verrez, on va en parler abondamment, hein, ça, les intolérances alimentaires qui explosent chaque année plus, et c'est absolument incroyable la vitesse de progression des intolérances alimentaires, mais des allergies en général, des maladies auto-immunes aussi dans nos sociétés. Puis évidemment, ces antibiotiques, parce que si vous voulez, comme on balance des antibiotiques à tour laryngot, par exemple, une trentaine de fois chez le poulet, hein, parce que sinon il va jamais aller au bout de son élevage, les poulets tassés les uns sur les autres, stressés, ils sont complètement immunodéprimés, ils attrapent tout. Donc si vous voulez, c'est absolument, ce système oblige à balancer toutes les semaines des antibiotiques, eh bien, ils vont se retrouver dans l'eau, parce que ces poulets, ils urinent, ils passent dans les nappes phréatiques, ils se retrouvent dans l'eau du robinet. Donc, si vous voulez, on est tous exposés, même si le médecin n'a pas prescrit d'antibiotiques, à des antibiotiques, à des niveaux plus ou moins élevés dans les aliments, dans l'eau, et ça crée des résistances aussi aux antibiotiques, et ça contribue à ce phénomène d'altération de la flore qui va enflammer le tube digestif et favoriser le passage d'aliments non digérés qui vont créer des réactions. Il faut bien comprendre que plus le tube digestif est poreux, plus il va passer des morceaux de protéines gros, et à partir de 9 acides aminés, c'est un antigène, paf, il y a l'épitope, la signature spatiale qui va déclencher une réaction. Ah, on est attaqué, c'était pas dans le catalogue qu'on a identifié dans le ventre de sa mère, et hop, on attaque. Et vous comprenez bien qu'il y a à la fois la porosité du tube digestif et l'installation de la tolérance qui se conjugue pour nous créer ces problèmes.
Bien, ça c'est intéressant, et vous vouliez aussi, je pense, préciser que la mère doit être tolérante, en particulier lorsqu'elle est enceinte. C'est là où...
Voilà, alors pour parler de tolérance, justement, le bébé c'est un alien.
Hein.
C'est pas les gènes de la mère, c'est un mélange des gènes du père et de la mère, d'accord.
Oui.
Et donc en fait, la mère porte une tumeur dans son ventre qu'elle devrait rejeter. Comment ça se fait qu'elle ne le rejette pas? Parce que justement, il y a un phénomène de tolérance absolument indispensable, et cette tolérance, elle commence déjà avant la conception. Ah, on a découvert ça parce que il y a des femmes enceintes qui font une pathologie grave qui s'appelle l'éclampsie, où elles ont une flambée d'hypertension, altération rénale, réaction inflammatoire, même d'épilepsie, hein, ça peut aller jusque-là. Vous voyez que c'est grave. Et quelle est la raison principale? Ça a été découvert par une équipe hospitalière française, hein, c'est que avant la conception, la future mère et le futur père ont des relations sexuelles non protégées, il y a, si vous voulez, un contact direct entre les spermatozoïdes et ces protéines du père et la muqueuse de la mère. Et ça permet d'installer progressivement une tolérance. S'il n'y avait pas eu de rapport avant et qu'il y a une fécondation sans rapport préalable non protégé, c'est un facteur majeur de risque d'éclampsie, de réaction inflammatoire de la mère.
Eh bien,
vous comprenez?
Oui, ça c'est très intéressant. Donc le message, c'est faites beaucoup l'amour avant de faire un enfant,
oui,
histoire de préparer tout ça, cette tolérance. On va se retrouver la semaine prochaine, on va poursuivre, parce que là, c'est le début, on va poursuivre ces conversations passionnantes,
oui,
avec le docteur.
Vous voyez que Fabrice, il a le sens pratique, hein. il fait les conclusions intéressantes.
Ah bah, vous savez, hein, on essaie de tirer la couverture comme on essaie de voir les choses qui nous arrangent en réalité. Bon, merci en tous les cas, Jean-Paul. Je suis sûr que vous avez retenu les mêmes choses, vous. Alors bon, on va se retrouver la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation. D'ici là, portez-vous bien, mon cher Jean-Paul. Passez une excellente semaine. Et cette émission, elle sera dispo en podcast à partir de dimanche 18h. Au revoir, Jean-Paul.
Voilà, et cultivez bien la tolérance pendant la semaine.
On pratique la tolérance.
Nutri Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.